Petite livre, histoire romaine, livre 1, 8e partie, Tarquin le Superbe, 535 à 509 avant Jésus-Christ. Tarquin le Superbe, un véritable tyran. Tarquin prit sans hésiter possession du trône. Il fut surnommé le Superbe parce que, gendre du roi, il refusa la sépulture à son beau-père, disant que Romulus avait eu le même sort. Il fit périr les premiers des sénateurs, qu'il soupçonnait d'avoir servi le parti de Servius Tullius, et sentant trop bien que l'exemple qu'il donnait en s'emparant du trône par la violence pourrait tourner contre lui-même, il s'entoura de gardes. Car tout son droit était dans la force, lui qui n'avait eu ni les suffrages du peuple, ni le consentement du Sénat. Ne pouvant compter sur l'affection des citoyens, il lui fallait régner par la terreur. Afin d'en étendre les effets, il s'affranchit de tout conseil et s'établit juge unique de toutes les affaires capitales. Par ce moyen, il pouvait mettre à mort, exilés, privés de leurs biens, non seulement ceux qui lui étaient suspects ou qui lui déplaisaient, mais encore ceux dont il ne pouvait rien espérer que leur dépouille. Cette politique farouche avait eu pour but principal de diminuer le nombre des sénateurs. Tarquin résolut de n'en point nommer d'autres, afin que leur affaiblissement les rendît méprisables, et qu'ils souffrissent avec plus de résignation l'ignominie de ne pouvoir rien dans le gouvernement. C'est en effet le premier roi qui ait dérogé à l'usage suivi par ses prédécesseurs de consulter le Sénat sur toutes les affaires. Il gouverna sous l'inspiration de conseils occultes. Il fit la paix ou la guerre suivant son caprice, conclut des traités, fit et défit des alliances, sans s'inquiéter de la volonté du peuple. Il recherchait surtout l'amitié des Latins, afin de se faire à l'étranger un appui contre ses propres sujets. Ils s'attachaient leurs principaux citoyens, non seulement par les liens de l'hospitalité, mais aussi par des alliances de famille. Il donna sa fille à Octavius Mamilius de Tusculum, qui tenait le premier rang parmi les Latins et qui, si l'on en croit la renommée, tirait son origine d'Ulysse et de Circé. Cette union mit dans ses intérêts tous les parents et tous les amis de Mamilius. Turnus d'Aricie et la soumission des Latins. Tarquin exerçait déjà une grande influence sur les chefs des Latins quand il leur proposa de se rendre à un jour marqué au bois sacré de la déesse Ferentina, ajoutant qu'il voulait les entretenir de leurs intérêts communs. Ils s'y réunissent en grand nombre au point du jour. Tarquin y vient aussi, mais un peu avant le coucher du soleil. Dans cet intervalle et pendant toute la journée, différentes questions avaient jeté le trouble parmi les membres de l'assemblée. Turnus Erdonius d'Aricie s'irritait surtout de l'absence de Tarquin. Fallait-il s'étonner que Rome l'eût nommé le Superbe, car c'est ainsi qu'il le désignait déjà dans leur secret murmure? Quoi de plus insolent, en effet, que de se jouer ainsi de toute la nation latine, faire venir ses chefs loin de leur demeure et manquer lui-même à son appel? N'est-ce pas tenter leur patience afin de les écraser sous le joug s'ils se montrent disposés à le subir? Qui ne voit sa tendance à dominer tout le Latium? Encore, si ses sujets avaient lieu de se féliciter de leur choix, si du moins ils devaient le trône à leur volonté et non pas à un parricide, les Latins aussi pourraient se fier à lui, bien qu'après tout leur qualité d'étranger ne les oblige pas à la même défiance. Mais si au contraire les Romains gémissent de leur tolérance, s'ils sont assassinés les uns après les autres, exilés, ruinés, de quel droit les Latins espéreraient-ils un meilleur traitement? S'ils voulaient l'en croire, ils retourneraient chacun dans ses foyers et ne se mettraient pas en peine d'être plus exact à l'assemblée que celui qui l'avait convoqué. Turnus était un esprit turbulent et factieux, et c'est à cela même qu'il devait son influence. Comme il parlait ainsi, Tarquin arrive et l'interrompt. L'assemblée se tourne vers le roi pour le saluer, et le silence s'établit. Ceux qui sont près de Tarquin l'avertissent de se justifier de son retard à l'assemblée. Tarquin dit qu'il a été pris pour médiateur entre un père et un fils, que son désir de les réconcilier l'a retenu, et que cette circonstance ayant fait perdre la journée, il leur exposera le lendemain le motif pour lequel il les a convoqués. Turnus, dit-on, ne goûta point cette excuse, et rompit le silence. Il n'y a pas, dit-il, de différents plus prompts à terminer que ceux d'un père et de son fils, et la question se décide en peu de mots. Que le fils obéisse, ou qu'il soit puni. Le citoyen d'Aricie, après avoir ainsi relevé les paroles du roi de Rome, quitte l'assemblée. Mais plus sensible à cette injure qu'il ne le fit paraître, Tarquin jura intérieurement d'immoler Turnus, et parla d'inspirer aux Latins la terreur qui comprimait tous les esprits. Mais comme il n'avait pas le droit de le faire plaider publiquement, il imagina de lui intenter une accusation calomnieuse. Par l'entremise de quelques habitants d'Aricie, il suborne un esclave de Turnus et en obtient à prix d'or qu'il laisse rapporter secrètement dans la maison de son maître un grand nombre d'épées. Une nuit suffit à l'exécution de ce projet. Tarquin, un peu avant le jour, mande auprès de lui les principaux des Latins, et, affectant l'émotion que cause un événement extraordinaire, il leur dit que, grâce au Dieu dont la Providence a retardé hier son départ, ils ont été sauvés, eux et lui, d'un grand péril. Il a su en effet que Turnus, afin de régner seul sur les Latins, avait formé le projet de l'assassiner ainsi que les principaux citoyens du pays. Projet qui avait dû s'exécuter la veille pendant l'assemblée, mais que l'absence de celui qu'il avait convoqué, et à qui Turnus en voulait le plus, l'avait fait différer. De là cette colère, contre un retard dont la prolongation trompait les espérances du conspirateur. Nul doute maintenant, si les rapports sont vrais, que demain, au lever du jour, Turnus ne se présente à l'assemblée les armes à la main, avec tous ses complices. On dit qu'on a porté chez lui une grande quantité d'épées. Pour vérifier ce fait, lui, Tarquin, les prie de le suivre chez Turnus. Le caractère violent de Turnus, ses paroles de la veille, le retard de Tarquin, cause probable de l'ajournement du crime, toutes ces circonstances font naître les soupçons. Les chefs latins suivent Tarquin, poussé par un sentiment de crédulité naturelle, mais bien résolu à déclarer l'accusation mensongère s'il ne trouvait point ces armes qu'on leur dénonçait. Turnus dormait encore lorsqu'ils arrivent. Des gardes l'entourent. On saisit les esclaves qui se préparaient à défendre leur maître, et l'on apporte en même temps les épées de tous les coins de la maison. La conspiration semble alors avérée. Turnus est chargé de chaînes, et l'assemblée des Latins est convoquée tumultueusement. La vue des armes, exposée à tous les regards, excite une telle indignation que, sans donner à Turnus le temps de se défendre, on le condamne à périr d'un nouveau genre de supplice. On le couvre d'une claie chargée de pierres, et on le noie dans les eaux de Ferentina. Tarquin rappelle ensuite les Latins à l'assemblée. Et après les avoir félicités du châtiment qu'ils ont infligé à ce factieux, dont les complots parricides étaient manifestes, il ajoute que les Latins étant originaires d'Albe, et cette ville avec toutes ses colonies ayant été soumise à l'Empire de Rome par un traité conclu sous le règne de Tullus, ils pourraient bien faire valoir auprès d'eux un droit aussi ancien à la souveraineté sur tous les peuples latins. Mais il croit qu'il serait plus avantageux à tous de renouveler ce traité, qu'il vaut mieux pour les Latins s'associer à la fortune de Rome que de craindre sans cesse, comme il leur était arrivé sous le règne d'Ancus d'abord, ensuite sous celui de son père, la destruction de leur ville et le ravage de leur campagne. Bien que ce traité contînt la reconnaissance explicite de la suprématie romaine, il ne fut pas difficile de persuader aux Latins d'y souscrire. Ils voyaient les plus considérables d'entre eux d'intelligence avec le roi, et la mort récente de Turnus était un avertissement pour ceux qui pouvaient être tentés de résister. Le traité fut renouvelé, et la jeunesse du pays reçut de Tarquin l'ordre de se trouver en armes au bois de Ferentina un jour indiqué. Tous, de toutes les contrées du Latium, se rendirent à l'appel. Mais, voulant qu'ils n'eussent ni chef distinct, ni signe secret de ralliement, ni drapeau particulier, Tarquin les incorpora dans les centuries romaines. Latins et Romains comptant chacun par moitié dans les centuries, celles-ci furent doublées et reçurent pour chef des centurions romains. La guerre contre les Volsques. Si Tarquin méconnut les lois de la justice pendant la paix, il fut loin cependant d'ignorer l'art de la guerre. Il eût même égalé sous ce rapport les rois ses prédécesseurs, si la gloire du général n'eût été ternie par les vices du roi. Il commença contre les Volsques, cette guerre qui dura plus de 200 ans. Il prit d'assaut leur ville, Suessa Pometia. Il en vendit le butin et tira de cette vente 40 talents d'or et d'argent. Ce fut alors qu'il conçut l'idée d'élever à Jupiter ce vaste temple, digne du roi des dieux et des hommes, digne de l'Empire romain, digne enfin de la majesté du lieu où furent assis ses fondements. L'argent pris sur l'ennemi fut mis en réserve pour la construction de cet édifice. L'épisode de Gabille. Tarquin entreprit ensuite contre Gabille, ville voisine de Rome, une guerre dont l'issue ne fut ni aussi heureuse, ni aussi prompte qu'il l'avait espéré. Repoussé après un assaut inutile, obligé même de renoncer par suite de cet échec à un siège régulier, il résolut, ressource peu digne d'un Romain, d'employer la ruse et la perfidie. Tandis que paraissant ne plus songer à la guerre, il feignait d'être uniquement occupé de la construction du temple de Jupiter et d'autres ouvrages commencés dans la ville, Sextus, le plus jeune de ses trois fils, d'accord avec lui, s'enfuit chez les Gabiens, se plaignant à eux de la cruauté intolérable de son père. Il dit que Tarquin, non content d'exercer sa tyrannie sur les autres, l'a fait peser sur sa propre famille. Il redoute le nombre de ses enfants, et comme il a dépeuplé le Sénat, il veut aussi dépeupler sa maison et ne laisser d'héritier ni de son nom ni de sa couronne. Quant à lui, Sextus, échappé au glaive de son père, il n'a cru trouver nulle part un asile plus sûr que chez les ennemis de Lucius Tarquin. Car il faut bien qu'il le sache, la guerre, qui paraît abandonnée, est toujours menaçante. Elle recommencera dans l'occasion et fondra sur eux à l'improviste. S'il repousse ses prières, il parcourra tout le Latium. Il ira chez les Volsques, chez les Èques et chez les Herniques, jusqu'à ce qu'il trouve un peuple assez généreux pour défendre les fils contre la persécution et la cruauté impie de leur père. Peut-être en rencontrera-t-il un à qui une juste indignation fera prendre les armes contre le plus orgueilleux de tous les rois et le plus ambitieux de tous les peuples. Les Gabiens, craignant, s'ils ne cherchent à le retenir, qu'ils ne quittent leur ville irritée contre eux, l'accueillent avec bonté. Ils lui disent qu'il ne doit point s'étonner lui-même que Tarquin traite ses propres enfants comme il a traité ses concitoyens, ses alliés, qu'à défaut d'autres victimes, sa cruauté devait se tourner contre lui-même, qu'au reste lui, Sextus, est le bienvenu parmi eux, et qu'il espère pouvoir bientôt, aidé de son courage et de ses avis, porter la guerre des murailles de Gabille sous celle de Rome. Depuis ce jour, Sextus fut admis dans le conseil. Là, il adoptait hautement, sur toutes les affaires civiles, l'opinion des anciens Gabiens, auxquels elles étaient plus familières. Mais il n'en était pas ainsi pour la guerre, qu'il demandait de temps en temps, disant que sur ce point, ses avis étaient d'autant meilleurs qu'il connaissait mieux les forces des deux peuples. Et combien la tyrannie de Tarquin était odieuse aux Romains, insupportable même à ses enfants. Tandis qu'il poussait insensiblement les premiers de la ville à la révolte, que lui-même, avec une troupe de jeunes gens entreprenants, il allait faire des incursions, piller sur le territoire de Rome, que ses actes, que ses paroles conformes à son plan de fausseté, augmentaient son influence fatale, il finit par obtenir le commandement général de l'armée des Gabiens. Pour ne pas laisser entrevoir ses desseins, il livrait souvent de petits combats où l'avantage restait aux Gabiens. Aussi l'enthousiasme devint-il si vif que grands et petits, tous regardaient son arrivée à Gabie comme une faveur des dieux. Magnifique d'ailleurs envers le soldat auquel il abandonnait le butin et dont il partageait les fatigues et les dangers, il gagna tellement son affection que son père n'était pas plus puissant à Rome que lui à Gabie. Quand il se croit assez fort pour tout oser, il dépêche à son père un des siens, chargé de lui demander ce qu'il doit faire, maintenant que les dieux lui ont accordé un pouvoir absolu dans la ville de Gabie. Le messager, dont la fidélité, j'imagine, parut douteuse, ne reçut pas de réponse verbale. Mais Tarquin, prenant un air pensif, passa dans les jardins du palais suivi de l'émissaire de son fils. Là, dit-on, se promenant en silence, il abattait avec une baguette les têtes des pavots les plus élevés. Fatigué de questionner et d'attendre une réponse, le messager s'en retourne à Gabie, croyant avoir échoué dans sa mission. Il rapporte ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, et ajoute que le roi, soit par haine, soit par colère, soit enfin par un effet de cet orgueil qui lui est naturel, n'a pas prononcé une seule parole. Mais Sextus, pénétrant sous cette énigme le sens de la réponse et les intentions de son père, fit périr les principaux citoyens. Les uns en les accusant devant le peuple, les autres en profitant de la haine qu'ils avaient soulevée contre eux. Plusieurs furent condamnés publiquement, quelques-uns, offrant moins de prise aux accusations, périrent en secret. D'autres purent fuir sans obstacle, d'autres furent exilés, les biens des bannis et des morts furent partagés au peuple. Ses largesses, le produit de ses spoliations, les séductions de l'intérêt privé étouffèrent le sentiment des malheurs publics, jusqu'au jour où Gabie, privé de conseil et de force, tomba enfin sans résistance au pouvoir de Tarquin. Construction du Capitole et exauguratio, autres travaux. Maître de Gabie, Tarquin fit la paix avec les Èques et renouvela le traité avec les Étrusques. Il donna ensuite toute son attention aux ouvrages intérieurs de Rome. Le plus important était le temple de Jupiter, qu'il bâtissait sur le mont Tarpéen, et qu'il voulait laisser comme un monument de son règne et du nom de Tarquin. C'était en effet l'ouvrage de deux Tarquins. Le père avait fait le vœu, le fils l'avait accompli. Et afin que l'emplacement du Capitole fût réservé tout entier à Jupiter, à l'exclusion de toute autre divinité, il résolut d'en faire disparaître les autels et les petits temples que Tatius y avait élevés, consacrés et inaugurés, conformément aux vœux qu'il en avait faits pendant un combat contre Romulus. Tandis qu'on jetait les premiers fondements de l'édifice, la volonté des dieux se révéla, dit-on, par des signes qui annonçaient la puissance future de l'Empire romain. Les augures permirent qu'on enlevât tous les autels, excepté celui du dieu Therme. Et l'on interpréta cette exception de la manière suivante. Le dieu Therme, gardant sa place, et seul de tous les dieux n'ayant pas été dépossédé de son sanctuaire sur le mont Tarpéen, présager la solidité et la durée de la puissance romaine. Ce premier prodige, qui montrait la perpétuité de l'Empire, fut suivi d'un autre qui en présageait la grandeur. On dit qu'en creusant les fondations du temple, on trouva une tête humaine parfaitement conservée. Ce nouveau phénomène désignait clairement que là serait aussi la tête de l'Empire, et l'interprétation en fut ainsi donnée par les devins de Rome et par ceux qu'on avait fait venir d'Étrurie. Tous ces présages portaient de plus en plus le roi à ne pas épargner les dépenses. Les richesses de Pomessia, qui devaient servir à terminer l'entreprise, suffirent à peine pour les fondations. À cet égard, Fabius, historien plus ancien d'ailleurs, me semble plus digne de foi que Pison. Le premier fait monter la valeur de ses richesses à 40 talents. Le second prétend que Tarquin avait mis en réserve pour la construction du temple 40 000 livres pesants d'argent, somme exorbitante, qui ne pouvait provenir du pillage d'aucune ville d'alors et qui suffirait, et au-delà, pour construire encore aujourd'hui les monuments les plus magnifiques. Tarquin, uniquement occupé du désir d'achever ce temple, fit venir des ouvriers de toutes les parties de l'Étrurie et mit à contribution non seulement les deniers de l'État, mais encore les bras du peuple. Ce fardeau ajouté à celui de la guerre ne semblait pourtant pas trop lourd au peuple, glorieux au contraire, de bâtir de ses mains les temples des dieux. Mais on l'employa dans la suite à d'autres ouvrages qui, pour avoir moins d'éclat, n'en étaient pas moins pénibles. C'était la construction des galeries autour du cirque et le percement d'un égout destiné à recevoir les immondices de la ville. Deux ouvrages que la magnificence de nos jours est à peine parvenue à égaler. Outre ces travaux qui tenaient le peuple en haleine, Tarquin, persuadé qu'une population nombreuse est à charge de l'État quand elle est inoccupée, et voulant d'ailleurs, par des colonies nouvelles, étendre les limites de l'Empire, envoya des colons à Signia et à Kyrkéi, place qui devait un jour protéger Rome, du côté de la terre et du côté de la mer. L'ambassade à Delphes avec Brutus. Au milieu de tous ces travaux, on vit avec terreur un nouveau prodige. Un serpent, sorti d'une colonne de bois, jeta l'épouvante parmi tous les habitants du palais et les mit en fuite. Tarquin, d'abord moins effrayé, en conçut pourtant de graves inquiétudes pour l'avenir. Les devins étrusques étaient ordinairement consultés sur les présages qui se manifestaient en public, mais ce dernier paraissant menacer sa famille, Tarquin résolut de consulter l'oracle de Delphes, le plus célèbre du monde. Toutefois, ne sachant quelle serait la réponse du dieu, il n'osa confier à des étrangers le soin de l'aller recevoir, et envoya deux de ses fils en Grèce, à travers des contrées alors inconnues et des mers plus inconnues encore. Titus et Arens partirent accompagnés du fils de Tarquinia, sœur du roi, Lucius Junius Brutus, lequel était d'un caractère bien différent de celui qu'il affectait de montrer en public. Instruit que les premiers de l'État, que son oncle entre autres, avait péri victime de la cruauté de Tarquin, ce jeune homme prit dès ce moment le parti de ne rien laisser voir dans son caractère ni dans sa fortune, qui pût donner de l'ombrage au tyran et exercer sa cupidité. En un mot, de chercher dans le mépris d'autrui une sûreté que la justice ne lui offrait pas. Il contrefit l'insensé, livrant sa personne à la risée du prince, lui abandonnant tous ses biens, et acceptant même l'injurieux surnom de Brutus. C'est à la faveur de ce surnom que le libérateur de Rome attendait l'accomplissement de ses destinées. Conduit à Delphes par les Tarquins, dont il était le jouet plus que le compagnon, il apporta, dit-on, au dieu un bâton de cornouiller, creux et renfermant un bâton d'or, emblème mystérieux de son caractère. Arrivés enfin, les jeunes princes, après avoir exécuté les ordres de leur père, eurent la curiosité de savoir auquel d'entre eux reviendrait le trône de Rome. On prétend qu'une voix répondit du fond du sanctuaire : celui-là possédera la souveraine puissance qui, le premier de vous, jeunes gens, embrassera sa mère. Les Tarquins exigent le plus rigoureux silence sur cet incident, à l'égard de Sextus, leur frère, qui était resté à Rome, afin qu'ignorant la prédiction, il perdit toute chance à l'Empire. Quant à eux, ils abandonnent à la bonne fortune le soin de décider lequel des deux, à leur retour, embrassera sa mère. Mais Brutus, donnant une autre interprétation aux paroles de la Pythie, feignit de se laisser tomber et baisa la terre, la mère commune de tous les hommes. Lorsqu'ils revinrent à Rome, on y faisait de grands préparatifs de guerre contre les Rutules. La guerre contrariée, Sextus Tarquin viole Lucrèce, qui se suicide. Les Rutules habitaient la ville d'Ardée. C'était une nation puissante et riche, et pour le temps, et pour le pays. La guerre leur fut déclarée à cause de l'épuisement des finances, résultat des travaux somptueux entrepris par Tarquin, lequel désirait de combler le vide et de regagner en même temps par l'appât du butin le cœur de ses sujets. Ceux-ci, en effet, irrités de son orgueil et de son despotisme, s'indignaient que le prince les enchaînât depuis si longtemps à des travaux de manœuvre et d'esclaves. D'abord on essaya de prendre Ardée d'assaut, mais cette tentative eut peu de succès. On convertit le siège en blocus, et l'ennemi fut resserré dans l'enceinte de ses murs. Durant ce blocus, et comme il arrive ordinairement dans une guerre moins vive que longue, on accordait assez facilement des congés, mais aux officiers plutôt qu'aux soldats. De temps en temps, les jeunes princes abrégeaient les ennuis de l'oisiveté par des festins et des parties de débauche. Un jour qu'ils soupaient chez Sextus Tarquin, avec Tarquin Collatin, fils d'Egérius, la conversation tomba sur les femmes et chacun d'eux de faire un éloge magnifique de la sienne. La discussion s'échauffant, Collatin dit qu'il n'était pas besoin de tant de paroles, et qu'en peu d'heures on pouvait savoir combien Lucrèce, sa femme, l'emportait sur les autres. « Si nous sommes jeunes et vigoureux, ajouta-t-il, montons à cheval, et allons nous assurer nous-mêmes du mérite de nos femmes. Comme elles ne nous attendent pas, nous les jugerons par les occupations où nous les aurons surprises. » Le vin fermentait dans toutes les têtes. « Partons !» s'écrièrent-ils ensemble, et ils coururent à Rome à bride abattue. Ils arrivèrent à l'entrée de la nuit. De là, ils vont à Colossie, où ils trouvent les belles filles du roi et leurs compagnes, au milieu des délices d'un repas somptueux, et Lucrèce au contraire, occupé au fond du palais, à filer de la laine et veillant au milieu de ses femmes bien avant dans la nuit. Lucrèce eut tous les honneurs du défi. Elle reçoit avec bonté les deux Tarquins et son mari, lequel, fier de sa femme, invite les princes à rester avec lui. Ce fut alors que Sextus Tarquin conçut l'odieux désir de posséder Lucrèce, fût-ce au prix d'un infâme viol. Outre la beauté de cette femme, une réputation de vertu si éprouvée piquait sa vanité. Après avoir achevé la nuit dans les divertissements de leur âge, ils retournent au camp. Peu de jours après, Sextus Tarquin, à l'insu de Collatin, revient à Collatie accompagné d'un seul homme. Comme nul ne soupçonnait ses desseins, il est accueilli avec bienveillance et on le conduit après souper dans son appartement. Là, brûlant de désir et jugeant au silence qui l'environne que tout dort dans le palais, il tire son épée, marche au lit de Lucrèce déjà endormie, et appuyant une main sur le sein de cette femme, « Silence, Lucrèce, dit-il, je suis Sextus Tarquin, je tiens une épée, vous êtes morte s'il vous échappe une parole. » tandis qu'éveillée en sursaut et muette d'épouvante, Lucrèce, sans défense, voit la mort suspendue sur sa tête. Tarquin lui déclare son amour, il la presse, il la menace et la conjure tour à tour, et n'oublie rien de ce qui peut agir sur le cœur d'une femme. Mais voyant qu'elle s'affermit dans sa résistance, que la crainte même de la mort ne peut la fléchir, il tente de l'effrayer sur sa réputation. Il affirme qu'après l'avoir tuée, il placera près de son corps le corps nu d'un esclave égorgé, afin de faire croire qu'elle aurait été poignardée dans la consommation d'un ignoble adultère. Vaincue par cette crainte, l'inflexible chasteté de Lucrèce cède à la brutalité de Tarquin. Et celui-ci part ensuite, tout fier de son triomphe sur l'honneur d'une femme. Lucrèce, succombant sous le poids de son malheur, envoie un messager à Rome et à Ardée avertir son père et son mari qu'ils se hâtent de venir, chacun avec un ami sûr, qu'un affreux événement exige leur présence. Spurius Lucretius arrive avec Publius Valerius, fils de Volesius, et Collatin avec Lucius Junius Brutus. Ces deux derniers retournaient à Rome de compagnie lorsqu'ils furent rencontrés par le messager de Lucrèce. Il la trouve assise dans son appartement, plongée dans une morne douleur. À l'aspect des siens, elle pleure, et son mari lui demandant si tout va bien. « Non, répond-elle, car quel bien reste-t-il à une femme qui a perdu l'honneur ?»« Collatin, les traces d'un étranger sont encore dans ton lit. Cependant, le corps seul a été souillé. Le cœur est toujours pur et ma mort le prouvera. Mais vous, jurez-moi que l'adultère ne sera pas impuni. C'est Sextus Tarquin. C'est lui qui, cachant un ennemi sous les dehors d'un autre, est venu la nuit dernière ravir les armes à la main. Un plaisir qui doit lui coûter aussi cher qu'à moi-même si vous êtes des hommes. » Tous, à tour de rôle, lui donnent leur parole et tâche d'adoucir son désespoir en rejetant toute la faute sur l'auteur de la violence. Ils lui disent que le corps n'est pas coupable quand le cœur est innocent, et qu'il n'y a pas de faute là où il n'y a pas d'intention. « C'est à vous, reprend-elle, de décider du sort de Sextus. Pour moi, si je m'absous du crime, je ne m'exempte pas de la peine, désormais que nulle femme survivante à sa honte n'ose invoquer l'exemple de Lucrèce. » À ces mots, elle s'enfonce dans le cœur un couteau qu'elle tenait sous sa robe, et, tombant sur le cou, elle expire. Son père et son mari poussent des cris. Brutus organise la révolution qui va mettre fin à la royauté. Tandis qu'il s'abandonne à la douleur, Brutus retire de la blessure le fer tout dégouttant de sang, et le tenant levé, « Je jure, dit-il, et vous prends à témoin, ô Dieu, par ce sang, si pur avant l'outrage qu'il a reçu de l'odieux fils des rois, je jure de poursuivre par le fer et par le feu, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, l'orgueilleux Tarquin, sa femme criminelle et toute sa race, et de ne plus souffrir de roi à Rome, ni eux, ni aucun autre. » Il passe ensuite le fer à Collatin, puis à Lucrèce et à Valerius, étonné de ce prodigieux changement chez un homme qu'il regardait comme un insensé. Il répète le serment qu'il leur a prescrit, et passant tout à coup de la douleur à tous les sentiments de la vengeance, ils suivent Brutus, qui déjà les appelait à la destruction de la royauté. Ils transportent sur la place publique le corps de Lucrèce, et ce spectacle extraordinaire excite, comme il s'y attendait, une horreur universelle. Le peuple maudit l'exécrable violence de Sextus. Il est ému par la douleur du père, par Brutus, lequel, condamnant ses larmes et ses plaintes inutiles, propose le seul avis digne d'être entendu par des hommes, par des Romains, celui de prendre les armes contre des princes qui les traitent en ennemis. Les plus braves se présentent spontanément tout armés. Le reste suit bientôt leur exemple. On en laisse la moitié à Colassie pour la défense de la ville et pour empêcher que la nouvelle de ce mouvement ne parvienne aux oreilles du roi. l'autre moitié marche vers Rome sur les pas de Brutus. À leur arrivée, et partout où cette multitude en armes s'avance, on s'effraie, on s'agite, mais lorsqu'on les voit guidés par les premiers citoyens de l'État, on se rassure sur leur projet, quel qu'il soit. L'atrocité du crime ne produisit pas moins d'effet à Rome qu'à Colassie. De toutes les parties de la ville, on accourt au forum, et la voix du héros rassemble le peuple autour du tribun des Célères. Brutus était alors revêtu de cette dignité. Il harangue le peuple, et sa parole est loin de se ressentir de cette simplicité d'esprit qu'il avait affectée jusqu'à ce jour. Il raconte la passion brutale de Sextus Tarquin et la violence infâme qu'il a exercée sur Lucrèce, la mort déplorable de cette femme, et la douleur de Trichipitinus, qui perdait sa fille, et s'affligeait de cette perte moins encore que de l'indigne cause qu'il avait provoquée. Il peint le despotisme orgueilleux de Tarquin, les travaux et les misères du peuple, de ce peuple plongé dans des fosses, dans des cloaques immondes qu'il lui faut épuiser. Il montre ces Romains, vainqueurs de toutes les nations voisines, transformés en ouvriers et en maçons. Il rappelle les horreurs de l'assassinat de Servius et cette fille impie faisant passer son char sur le corps de son père. Puis il invoque les dieux vengeurs des parricides. De pareils forfaits, et d'autres plus atroces sans doute, qu'il n'est pas facile à l'historien de retracer avec la même force que ceux qui en ont été témoins, enflamme la multitude. Entraînée par l'orateur, elle prononce la déchéance du roi et condamne à l'exil Lucius Tarquin, sa femme et ses enfants. Brutus lui-même, ayant enrôlé et armé tous les jeunes gens qui s'empressaient de donner leur nom, marche au camp devant Ardée, afin de soulever l'armée contre Tarquin. Il laisse le gouvernement de Rome à Lucrécius, que le roi lui-même avait nommé préfet de la ville quelque temps auparavant. Au milieu du tumulte général, Tullia s'enfuit de son palais, recueillant partout sur son passage les exécrations de la foule et entendant vouer sa tête aux furies vengeresses des parricides. Lorsque la nouvelle en arrive dans le camp, le roi, surpris et effrayé, accourt à Rome en toute hâte pour y étouffer la révolution naissante. Brutus est informé de son approche, et pour ne pas le rencontrer, il se détourne de sa route. Ils arrivèrent tous deux presque en même temps par des chemins opposés, Brutus au camp, et Tarquin à Rome. Tarquin trouva les portes fermées et on lui signifia son exil. L'armée, au contraire, reçut avec enthousiasme le libérateur de Rome et chassa de ses rangs les enfants du roi. Deux d'entre eux suivirent leur père en exil à Kérée, chez les Étrusques. Sextus Tarquin, qui s'était retiré à Gabii comme dans ses propres états, y périt assassiné par ceux dont ses meurtres et ses rapines avaient autrefois soulevé les haines. Le règne de Tarquin le Superbe fut de 25 ans, et celui de tous les rois, depuis la fondation de Rome jusqu'à son affranchissement, de 244. Les comices, alors assemblés par centurie et convoqués par le préfet de Rome suivant le plan de Servius, nommèrent deux consuls, Lucius Junius Brutus et Lucius Tarquin Collatin. Fin du livre 1.